ce matin, Julie, vous vous penchez avec votre invité sur une alliance des villes d'Europe centrale qui se disent libres contre leur gouvernement ultra-conservateur.
Ou populiste, oui, c'est une alliance qui a été scellée en décembre par les maires des quatre capitales des pays du groupe dit de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Ils sont donc maires de Varsovie, de Budapest, de Prague et de Bratislava et ils se disent à la tête de villes libres donc contre l'ultra-conservateur Viktor Orban qui gouverne la Hongrie à nouveau depuis 2010, contre le parti Droit et Justice à la tête de la Pologne depuis 2015 ou encore contre des dirigeants tchèques et slovaques accusés de corruption ou de détournement de fonds européens. Cette union a été permise après que Budapest, trois jours plus tôt, a chassé le maire affilié au Fidesz et très proche de Viktor Orban et a élu à sa place un opposant, président d'un petit parti de centre-gauche. Alors la résistance venue des villes peut-elle vraiment mettre à mal ces gouvernements qui depuis une dizaine d'années ne rencontraient quasiment que des succès électoraux? Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et vous êtes cofondateur du blog Eurasia Prospective. Alors vous êtes venu, Florent Parmentier, avec un tableau manuscrit pour comparer les parcours politiques de ces quatre maires, de ces quatre capitales. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Est-ce que leurs familles politiques sont assez semblables?
Non, effectivement, la première chose qui frappe, c'est qu'il y a une cohérence générationnelle entre ces quatre maires qui ont signé le pacte des villes libres. Ils sont tous nés dans les années 70, à l'exception de Zdeněk Hrib de Prague, qui est né en 81, mais sinon ils sont tous nés entre 72 et 80. Il y a une cohérence générationnelle. Pour autant, leurs fonds de commerce électoraux ne sont pas exactement les mêmes. Ils sont en opposition par rapport à un contexte interne, plus qu'unis finalement par une idéologie commune des pactes de ces villes libres. Il y a des rapprochements, des tendances, effectivement, et les gouvernements qu'ils combattent, ou qu'ils entendent combattre, ont des particularités en partant d'un certain nombre, mais ne sont pas exactement identiques. À Budapest, on a effectivement un écologiste plutôt de tendance de centre-gauche. À Varsovie, et on a une alternance. À Varsovie, Monsieur Trzaskowski appartient à la plateforme civique, qui correspond grosso modo à une forme de centre-droit libéral, qui est en opposition avec le PiS, donc le parti au pouvoir actuellement
en Pologne.
À Prague, c'est un représentant du parti pirate qui a été élu. Et puis à Bratislava, on a quelqu'un qui est issu plutôt du militantisme local, sans réelles affiliations partisanes. Donc on a là à la fois des membres de partis identifiés comme opposition et solide opposition comme la plateforme civique, et puis des partis plus originaux.
Alors faisons un zoom par exemple pour l'instant sur la Hongrie et Budapest. Donc c'est le président d'un petit parti de centre-gauche qui l'a emporté le 13 décembre contre le Fidesz, le parti de Viktor Orban, qui était à la tête de la capitale hongroise depuis 2010. Est-ce qu'il y a eu un retournement de l'opinion publique à Budapest contre le Fidesz ou est-ce simplement que la population a changé dans une capitale? Les changements, notamment sociologiques, peuvent se faire très vite. Qu'est-ce qu'on peut en déduire?
On a plutôt affaire à une opposition qui a su s'unir, ce qui est la première fois depuis un certain nombre d'années. La particularité effectivement de Viktor Orban ayant été d'avoir pu accumuler des succès électoraux depuis un certain nombre d'années maintenant, sans avoir finalement d'opposition structurée en face de lui, ou en tout cas avec des oppositions, mais qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord.
Donc c'est quoi? C'est une sorte de front républicain, comme on dirait en France?
Un front républicain a particulier malgré tout, puisque les écologistes et le centre-gauche a pu bénéficier en quelque sorte du soutien au moins tacite du Jobbik, qui est un parti plus à
droite,
plus conservateur, antisémite, qui est en quelque sorte plus... Donc ce qui a vraiment pesé, c'est finalement une forme de référendum anti-Orban et de lutte contre le Fidesz.
Mais c'est pas avec ça qu'on va bâtir un programme de gouvernement alternatif pour la Hongrie. Alors si cette opposition est si hétéroclite, on peut gagner une ville, mais pas bâtir un programme commun.
Effectivement, et ce qu'il faut observer, c'est que donc Ivan Tarlos, qui était le précédent maire, a effectivement été resté 10 ans au pouvoir entre 2010 et 2019. Ce qu'il faut observer aussi, c'est qu'un certain nombre de villes hongroises ont basculé. Donc c'est pas seulement le cas finalement dans ces municipales de Budapest qui est intéressant, c'est le recul du Fidesz dans un certain nombre de villes qu'on peut attribuer à plusieurs facteurs, probablement deux choses essentielles. D'abord la corde anti-migratoire sur laquelle le Fidesz a joué à fordure le loup et de ne pas voir l'arrivée massive d'un multiculturalisme qui est honni chez Viktor Orban, cette corde-là a tendance un peu à s'épuiser.
Dans les capitales, en plus, on est plutôt sur des villes un peu plus, comme on dit, multiculturelles.
Notamment dans les villes, et notamment dans une ville comme Budapest, qui, dans certains quartiers, le 7e arrondissement notamment, accueille aujourd'hui un certain nombre d'expatriés. Donc on a effectivement les expatriés européens votent aux élections municipales. Donc on a un électorat qui devient particulier. Il faut rappeler que Budapest, c'est 1,7 million d'habitants, mais c'est 20% de la population hongroise. Donc on a quelque chose là qui est important. Donc il y a ça, il y a également probablement, et c'est paradoxal à première vue, un certain nombre de succès économiques. Il faut voir que sur le temps long, les 30 dernières années, le rattrapage de l'Est et de l'Ouest du continent n'a jamais été aussi important. Mais dans certains quartiers de Budapest, le marché locatif a tendance à être de plus en plus cher. Et plus vous êtes cher dans votre marché locatif, en réalité, plus un certain nombre de personnes se sentent un peu relativement lésées par cette croissance qui fonctionne bien pour certains, mais qui fonctionne moins pour d'autres. Et donc, il y a probablement aussi une sorte de frustration relative de l'électorat à ce niveau-là.
Alors, Florent Parmentier, le nouveau maire de Budapest, dit que les villes peuvent être le pont pour régler la crise de la démocratie. Concrètement, quelles sont les prérogatives que ces capitales ont? En tout cas, restant sur Budapest, pour contrecarrer certains projets du gouvernement hongrois. On a bien vu, par exemple, que Viktor Orban ne cessait de leur retirer des prérogatives ou des ressources comme celles qui contribuent à financer les théâtres, par exemple. Qu'est-ce qu'elles ont comme pouvoir entre les mains pour, comme elles disent, régler la crise de la démocratie?
Alors, il y a, je pense, dans l'affirmation des quatre maires, donc le pacte des villes libres, une première idée qui est d'une fonction tribunicienne, en quelque sorte, comme disait Georges Lavaux dans un autre contexte, le politologue. Fonction tribunicienne qui consiste en quelque sorte à pouvoir dire à l'opinion publique et aussi aux alliés internationaux, cesser de ne voir finalement dans le groupe de Visegrad, qui est un bloc homogène, qui est là pour qui est là contre finalement une politique voulue, ouverte, multiculturelle, généreuse, voulue par les Français et les Allemands. L'idée de ces quatre maires est avant tout d'avoir un pouvoir peut-être de discussion, de prendre une place spécifique, celle de la tribune, qui est là pour occuper ce point. Avec un certain nombre de valeurs, liberté, état de droit, dignité, démocratie, justice sociale, etc. Donc il y a un ministère de la parole. Et puis, c'est aussi pour ça, en fait, effectivement, si la question est-ce que ces maires ont les moyens de leurs ambitions, probablement pas surtout. En revanche, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est précisément de solliciter leurs alliés internationaux pour dire, vous êtes en train de financer des gens au gouvernement qui défient ouvertement un certain nombre d'institutions européennes dans les discours. Il faut se souvenir, par exemple, du cas de la Hongrie, où peu de temps avant les élections l'an passé, en 2018, finalement, il y avait une forme de dénigrement de Jean-Claude Juncker, de l'Union européenne, sur la question migratoire. Là, on a l'idée, effectivement, de se dire que cessez donc de financer des personnes qui vous embêtent. Donnez-nous accès aux fonds structurels, précisément parce que les collectivités territoriales sont au cœur du fondement de la consolidation démocratique.
Voilà, ils voudraient que l'Europe leur verse davantage de fonds européens à elles, directement les villes. Est-ce que c'est possible que 5% par exemple des fonds européens dans le prochain budget soient réservés aux grandes villes?
Ça demande un certain nombre de réformes institutionnelles au niveau de l'Union européenne, ou en tout cas de réformes de classement. Pour l'instant, ce n'est pas possible et c'est précisément l'objet de la revendication. C'est une demande aujourd'hui qui peut être relayée, qui n'était pas relayée jusqu'à présent par les gouvernements, mais qui la peut l'être au nom d'un principe qui serait celui de subsidiarité.
Ils ont quand même un argument à faire valoir. Par exemple, en République tchèque, le Premier ministre Andrej Babiš est mis en cause dans une affaire de fraude aux fonds européens. Il s'en serait servi notamment pour construire un grand complexe hôtelier et agricole, je crois, près de Prague, il y a un peu plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, les maires de ces capitales disent « Regardez, on est face à des gouvernements qui détournent l'argent et il faut nous les verser directement. » Or, pour l'instant, la tendance des pays européens comme la France ou l'Allemagne, c'est plutôt de dire qu'ils vont sanctionner les pays qui ne respectent pas les valeurs européennes, comme ils disent. Donc la tendance est plutôt à priver de ressources plutôt qu'à les allouer spécifiquement en distinguant les échelons.
C'est là que l'initiative du pacte des villes libres est intéressante. C'est que ça ouvre une alternative politique à se dire est-ce que finalement on continue de financer des régimes qui nous soutiennent moins ou est-ce que finalement voilà on traite avec des personnes qui ont envie de ces fonds européens et qui peuvent en faire tout à fait bon usage.
Vous disiez tout à l'heure que ces villes vous laissent battre sur des questions de valeurs. Quelles sont les cartes que peuvent ou que veulent jouer les représentants de l'opposition? Sur quel sujet de société en particulier? Si on prend la Pologne, par exemple, le maire de Varsovie, qu'est-ce qu'il revendique comme valeur ou comme mesure pour contrecarrer les plans du PiS au pouvoir?
Ce que peuvent apporter les nouveaux maires et particulièrement donc le maire de Varsovie, c'est tout simplement première idée simple, la possibilité, en tout cas les manifestants n'étaient pas empêchés de manifester loin de là, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de manifestations à Varsovie, mais disons que il peut y avoir un encouragement plus fort des autorités locales à des manifestations pro-européennes qui existent et qui sont très fortes. Le point d'ailleurs intéressant est de constater que derrière des victoires là aussi de parti droit et justice, les principales villes polonaises sont toutes dans l'opposition. Et donc là aussi, au-delà de Varsovie, l'image en fait de la Pologne comme étant unanimement en train de tomber dans une problématique d'état de droit et de manquement à l'état de droit et n'est pas exagéré, il faut y être vigilant, mais en tout cas, il existe des contre-pouvoirs, au PiS.
Mais par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand Varsovie dit que, enfin, le maire de Varsovie dit qu'il peut agir sur la séparation de l'Église et de l'État ou qu'il le souhaite? Est-ce qu'au niveau municipal, il peut vraiment agir?
Il faut voir deux choses derrière. Il y a effectivement l'action locale sur des cas très précis, mais qui n'ont pas d'implication, en tout cas, qui dépendent du national. Mais il y a aussi la volonté de consolider autour de ces maires des alliances politiques qui seront à même d'amener l'alternance. Alors même que il y a probablement deux manières d'interpréter les résultats politiques des élections en Pologne. Soit on considère effectivement que il y a des conflits de valeurs entre, pour dire les choses très simplement, des urbains modernistes européens et des ruraux plus ancrés dans une société traditionnelle, c'est une manière de voir les choses. L'autre manière, et c'est pas non plus exclusif l'un de l'autre, c'est aussi de constater que dans ces espaces ruraux, il y a moins de services publics. Et donc c'est le défaillance des services publics en fait qui pose question. Vous avez un peu ce même rapport en France. On voit bien en France, c'est l'objet d'un des éléments de constatation qu'on a pu faire auprès des collectivités territoriales en France. Je vais regarder le prochain ouvrage apparaître de Martial Foucault sur les maires au bord de la crise de nerfs. Il est frappant d'observer que les votes extrêmes en France sont très souvent dans des villes qui sont éloignées en réalité des services publics à l'égard. Et on a le même phénomène en fait qu'on trouve en Europe centrale, c'est-à-dire moins vous avez accès à des services publics. Donc l'idée d'un maire comme Varsovie, c'est d'être un peu un porte-étendard, à la fois un porte-étendard à l'externe, montrer une autre image de la Pologne en quelque sorte, et puis aussi commencer à réfléchir en interne à des formes d'alliance entre les territoires et comment faire pour arrimer ces espaces gagnants de la mondialisation, comme peut l'être Varsovie, avec des territoires qui eux sont tout simplement moins, enfin plus en déshérence, non pas en déshérence, mais en tout cas en difficulté sur le plan des services publics.
Alors si ces forces d'opposition n'ont pas réussi pour l'instant à séduire les électeurs des régions rurales, ils ont donc, vous le disiez, remporté plusieurs villes, fait tomber les partis au gouvernement qui étaient à la tête de plusieurs villes, en l'occurrence de Hongrie ou de Pologne, ça veut quand même dire, Florent Parmentier, que ces forces d'opposition le sont restées, forces d'opposition, malgré la mise sous tutelle des médias privés, dont on parle beaucoup de ces gouvernements.
Ce qu'il faut observer, effectivement, là aussi, il y a une situation qui est peut-être diverse. Il y a un point d'attention particulier, qui doit être le cas de la Hongrie. La Hongrie, au classement vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, Reporters sans frontières, mais la Pologne au 87e rang mondial en matière de liberté de la presse. C'est l'état le plus difficile dans ce cadre-là, avec une tentation, une tendance à voir un certain nombre de médias se faire racheter et donc une forme de réduction du pluralisme par tout simplement des racines économiques et une inquiétude sur un certain nombre de médias d'opposition qui finissent par fermer la porte. La Pologne, là-dessus, est classée en 59e position mondiale. Ce que disent les pouvoirs polonais, c'est cette volonté à un moment de repoloniser les médias. Avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Le cas de la République tchèque et de la Slovaquie sont un peu différents là aussi. Respectivement 40e pour la République tchèque et 35e pour la Slovaquie. La Slovaquie a eu un scandale énorme en 2018, qui était le cas Jan Kuciak, donc ce journaliste assassiné. Mais cette affaire est aujourd'hui suivie. Il faut se souvenir aussi que Miloš Zeman, le président tchèque, était venu dans une conférence de presse en 2017 avec une fausse Kalachnikov pour dire voilà, ça c'est pour les journalistes. Ouais. Et on a donc des atteintes, en tout cas, à la fonction de journaliste qui sont importantes et qui sont notables.
Florent Parmentier, cette cérémonie de signature de cette alliance entre les capitales des pays du groupe dit de Visegrad, elle a eu lieu à l'Université d'Europe centrale à Budapest. C'est une institution qui a été fondée par George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise que Viktor Orban a de cesse de vilipender. Quels liens ont-ils avec lui ou avec cette institution? C'est vrai que c'est un drôle de signal de se placer en quelque sorte sous l'égide d'un milliardaire qui sert régulièrement de lien entre l'Europe de l'Est et les États-Unis. Est-ce que c'était voulu?
Derrière George Soros, il y a la Central European University. Et la Central European University a été un message en quelque sorte politique qui a été fait à l'époque, qui était de placer en Europe centrale une institution visible qui s'occupe notamment d'étudiants en master, en doctorat, et donc une grande institution de recherche dans des pays centro-européens qui n'en étaient pas dépourvus. Il y avait des systèmes éducatifs supérieurs, etc., mais en tout cas avec des moyens économiques qui étaient supérieurs à ceux des universités centro-européennes. Du coup, ce qu'il y a derrière la Central European University, c'est finalement une forme de... Vous savez, c'est un peu comme ces clubs qui hésitent entre jouer la Ligue des Champions et jouer le Championnat de France. Là, on a eu des gens qui se sont dit, bah tiens, on va jouer le championnat, la Ligue des Champions. Donc on a un peu ce parallèle, on peut dire, footballistique pour l'expliquer. Mais disons qu'il y a ça derrière. Cette institution a été mise en cause par Viktor Orban. Donc on peut voir quelque chose comme une forme de pied de nez à Viktor Orban pour dire... vous avez essayé de vous débarrasser de cette institution qui aujourd'hui d'ailleurs se partage entre Vienne et entre Budapest.
Parce que les étudiants fuient la...
Pas parce que les étudiants fuient, mais parce que en raison d'une loi qui a été adoptée un temps par Viktor Orban qui consistait à mettre de côté ou littéralement à ne pas permettre à des institutions universitaires étrangères. C'est une loi sur mesure faite pour contre la Central European University. C'est comme ça qu'elle a été interprétée en tout cas. Très clairement, et qu'elle peut être interprétée. Et donc, l'idée, voilà, tout simplement, est de prendre le contre-pied. La Central European University est encore pour partie à Budapest, mais en réalité, elle est déjà largement transférée en partie à Vienne, ce qui est un très beau cadeau pour Vienne, mais certainement moins pour Budapest.
Donc l'idée, c'était de se mettre sous l'égide de cette université plus que de celle de George Soros en lui-même. Oui. C'était plus ça, c'était un pied de nez à Viktor Orban.
C'était un pied de nez à Viktor Orban pour précisément cette raison-là.
Merci beaucoup Florent Parmentier d'avoir été avec nous ce matin. Alors je cite votre dernier ouvrage paru cette année aux éditions du Non-Lieu. Il est coécrit avec Josette Durieux et ça s'appelle La Moldavie à la croisée des mondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis très bonne dernière journée de l'année.
Merci.